Ça jazz à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Ça jazz à Lyon, je reçois ce matin Michel Dupoisat, le président de l'association Chapoli. Michel Dupoisat, bonjour.
Bonjour.
Le 23 décembre dernier, les premières familles roms s'installaient sur votre commune, celle de Saint-Genis-les-Ollières, dans leur village modulaire, et ce pour participer à ce dispositif préfectoral d'insertion polémique, I2E. Alors depuis des mois, vous menez la fronde contre ce projet, avec une grande partie des habitants derrière vous, la mairie également. Je vais être volontairement provocateur, mais est-ce que deux semaines après l'installation, votre commune s'est transformée en une sorte de jungle de Calais?
Vous faites bien de démarrer en étant provocateur. Vous avez dit plusieurs choses importantes. Effectivement, une partie des personnes sont arrivées et se sont installées.
Oui, il en reste.
Il en reste d'autres, donc c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à le climat, on pourrait dire, et puis la transformation de notre village, il faut souligner qu'il y a des forces de police et de gendarmerie très importantes depuis le départ, voire même surprenantes par leur dimension.
Oui.
Ce qui fait qu'effectivement, on n'a jamais vu autant de gendarmes à Saint-Genis-les-Ollières, et même le maire de Tassin se plaignait qu'il en avait peut-être pas assez sur sa commune pour certains moments, notamment au moment des fêtes et des commerces.
Mmh.
Donc une représentation très forte, et effectivement, pour le moment, c'est le début. Hein, comme vous le dites, ça fait que quelques jours.
Oui.
Nous attendons et on aura l'occasion d'en reparler, mais ça ne change en rien la détermination de notre association.
Bien sûr, mais alors dans les relations qu'il y a pu avoir entre les habitants de Saint-Genis et ces familles roms, il n'y a pas eu de tension pour le moment? Pas de faits divers à rapporter pour le moment?
On va dire qu'on a pu entendre certaines choses, mais on ne va pas y attacher d'importance dans la mesure où ce n'est pas des choses assez précises. Il faut dire que c'est une période de fête, donc l'installation, un encadrement très fort,
oui.
Des personnes qui sont peu dans la rue, on va laisser faire un petit peu le temps.
Vous reprochez plusieurs choses à la préfecture qui est derrière ce projet d'insertion. Il y en a une qui est très importante, c'est l'absence, le manque de concertation que vous reprochez au préfet Michel Delpuech. S'il y en avait une de concertation dans les règles de l'art, le projet serait probablement actuellement suspendu. Mais est-ce que vous auriez davantage accepté I2E si la préfecture avait pris le temps de vous expliquer, de vous entendre en retour?
Là, c'est le point effectivement important qui a motivé le lancement de cette association, le manque de concertation et le manque d'information. Aujourd'hui, on a toujours très très peu d'informations. Et je crois que ça, c'est un fait très négatif, à part des... Ça se passe sera bien. Quand je lis certains documents, on dit que c'est un projet ambitieux et inédit. Donc je pense que quand on se lance dans des propos comme ça, on devrait donner des informations aux personnes plus précises. C'est clair que la concertation nous aurait permis bien d'évoquer ce que l'on évoque depuis le départ. Nous sommes une commune d'une petite dimension, 4800 habitants, même pas. Sur cette commune-là, les risques d'une déstabilisation lorsqu'un grand nombre de migrants arrivent sont importants. Sur différents points, c'est ce que l'on a dit au niveau de l'environnement, que ce soit sur l'aspect écologique, sur l'aspect économique, social, éducatif, un ensemble de points où, quand on voit arriver un nombre aussi important, ça peut nous poser quelques problèmes ou quelques peurs. Quand vous dites la concertation, qu'est-ce qu'elle aurait permis? Je crois qu'au niveau de l'association, quand on rencontre les personnes, d'une manière, on va dire, unanime, ils disent que ça aurait été en termes de nombre de familles, ça peut s'entendre aujourd'hui, toute la nation a besoin de faire un effort d'intégration par rapport à des populations qui sont des migrants au sens large, ou des personnes...
Qui sont issues des bidonvilles de l'agglomération où ils vivaient dans des conditions déplorables.
Et on peut se réjouir effectivement que l'État se pose des questions sur ces conditions de vie déplorables pour donner au moins des conditions de logement meilleures. Ça ne pose pas de problème à qui que ce soit. Ce qui pose préoccupation, je vous dis, c'est ce volume, puisque vous le saviez, on a déjà une forte communauté de migrants sur le bas du fort, puisqu'on a 85 personnes et qui changent et autres. On a des jeunes délinquants. Mais le point le plus délicat aussi par rapport à ce manque de concertation, c'est que les demandeurs d'asile, quand ils sont arrivés, ont été imposés pour un an. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont là et c'est reconduit pour 3 ans. Ça ne devait rien coûter à la commune et ça coûte plus de 25 000 euros. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut, au travers ce manque de concertation de départ, ce manque d'information, se poser d'énormes questions qu'on s'est posées avant, qu'on va se poser pendant et qu'on se posera après la sortie de ce projet.
Vous aviez un manque de visibilité sur I2E avant l'installation des familles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y voyez plus clair?
L'avantage, c'est que rien n'a changé. On n'y voit pas beaucoup plus clair. Comme je vous l'ai dit, on a entendu que c'était un projet ambitieux et inédit, que tout se passerait bien, que de nombreux moyens seraient mis en place. On connaît si le budget, 3 millions d'euros. Comme je dis, c'est quand même plus de 2500 euros par famille et par mois. Donc on peut espérer que le projet a été bien ficelé et qu'il aura des résultats à la hauteur de l'engagement financier.
Votre association s'est fait l'écho de plein des habitants qui craignent de ne pas pouvoir revendre leur maison d'ici 3 ans, de chefs d'entreprise qui réfléchissent à délocaliser leur entreprise. Ce village modulaire a une telle aura négative?
Si vous voulez, un village déjà par lui-même, une concentration forte, on pourrait dire que de fait, on entend des termes de ghetto, il y a même des associations qui ont commencé à prononcer, qui connaissent mieux les publics que nous, parler d'un ghetto. Donc de fait, une concentration, ça crée de fait une image. Moi, je reprendrai les propos du préfet qui sont un peu rassurants pour la population. On fait signer un engagement de plus de mendicité, plus de vols et plus de prostitution. Donc on se dit quand il y a des engagements comme ça qui sont signés, que les personnes sont regroupées sur un même site et isolées de la population, bien je pense qu'il peut y avoir des grandes interrogations. Sur le plan immobilier, c'est clair qu'on a entendu hein, vis-à-vis des particuliers qu'ils se posaient des questions. Nous, on a vu même des jeunes personnes qui avaient signé des engagements et qui avaient dit à 15 jours près, j'aurais préféré perdre mon argent tout de suite parce que je sais que je perdrai à terme. Ça, c'est le cas. Les entreprises, ben, c'est clair qu'une entreprise, à la différence du projet du préfet, quand elle s'installe à un endroit, une entreprise, elle fait un choix délibéré et étudier parce que ben, le site correspond, l'accessibilité, l'encadrement. Il y a des entreprises dans la haute technologie, dans le luxe, dans l'environnement. Ils ont trouvé une cohérence. Aujourd'hui, effectivement, quand leurs clients étrangers vont venir, si les choses ne se passent pas bien ou si la presse a pu faire écho comme c'est, ben, c'est tout de suite le premier sujet de discussion qui apporte un petit point négatif. Et d'autres entreprises hésiteront certainement à s'installer à ce moment-là, ce qui fait qu'au niveau de l'emploi, il y aura une répercussion immédiate pour l'emploi local.
Le dispositif I2E prévoit la dispersion de familles sur plusieurs communes. Lundi, c'était les familles de Saint-Priest qui s'installaient. Elles se sont installées dans le calme, il n'y avait pas de contestation. Peut-être parce que leur terrain se trouve dans une zone industrielle. Le choix du terrain, c'était la clé. Est-ce que vous auriez pu envisager d'appréhender ce projet sur Saint-Genis-les-Eulières différemment si un autre site que le site Chapelier avait été choisi?
Là, il y a des points très importants dans ce que vous dites. Le premier point, c'est qu'effectivement, nous, j'ai prononcé le terme d'isolé. On est dans un monde rural. On peut penser que les migrants recherchent souvent la ville plus proche.
Oui.
Saint-Priest offre cette possibilité-là, c'est clair. Le deuxième point qui est important, c'est que Saint-Priest a une autre infrastructure que Saint-Genis-les-Eulières. C'est 10 fois plus pour le même nombre. Souvent, je dis, quand on parle de 80 demandeurs, 80 migrants, on dit, ben, mais si on ramenait ce chiffre-là à Lyon, ce serait 8000. Donc 8000 pour Lyon, c'est 800, 600 à 1000 par quartier. Je pense qu'effectivement, il y aurait eu une levée de bouclier. Sur le plan de nos infrastructures, on est vraiment limite et saturé. Et même sur le plan des moyens, sur l'aspect social, on a une personne qui s'en occupe. À Saint-Priest, on entend parler d'un nombre qui est plus proche d'une centaine ou d'une cinquantaine ou d'une centaine.
Les familles sont installées désormais à Saint-Genis-les-Eulières. D'autres vont arriver. Vos recours ont été rejetés par la justice administrative. Ils n'ont pas encore été jugés sur le fond. C'est là que vous pouvez vraiment faire pencher la balance, selon vous?
Sur le fond, on a des éléments précis. Ce manque d'informations, eh bien, on vient de demander au préfet de nous donner des informations un peu plus précises sur ce projet, parce que même si on dit qu'il y a des fonds européens, ce sont quand même des fonds publics, et on aimerait savoir les moyens qui se sont mis sur ces
projets. C'est sur les coûts, les personnes engagées, la surveillance
tout. Là, c'est le flou artistique, vous citez différents points. On sait qu'il y a un budget très important pour les mobilhomes, hein, pour le logement, et il faudra qu'il y ait un budget prévu, d'ailleurs, pour remettre en état, hein, sur le plan environnemental, la zone qui a été aujourd'hui aménagée. Mais c'est clair qu'on aimerait avoir des précisions, savoir où on va. Dans ce projet-là, vous avez parlé du gardiennage, comment ça se passe. Il y a des personnes qui nous ont même dit l'autre jour, parce qu'ils ont le droit de sortir. On peut le penser et l'espérer d'ailleurs. Mais on ne sait pas à quoi il sert exactement le gardiennage. Est-ce que c'est pour éviter, parce que l'une de nos peurs aussi, c'est qu'autour ce camp grossisse, puisque souvent on peut dire que les personnes, les migrants, ont une habitude familiale qui vient d'être détruite.
C'était une crainte de la préfecture également, que des mafias puissent revenir pour embrigader ces personnes.
Exactement, et c'est la grosse crainte qu'on peut avoir tous aujourd'hui. Donc, même si le préfet dit qu'il sera très vigilant, quand ces personnes, même déjà hors mafia, ont l'habitude d'avoir une vie familiale, parents, grands-parents et autres, moi je me dis, je ne vois pas comment ils pourraient accepter de les laisser dans la misère sans trouver, s'ils ont un moyen de se loger, un moyen de faire venir du monde en plus. Je ne vois pas comment c'est possible.
D'accord, et ça vous laisse quoi comme calendrier potentiel et comme résultat espéré désormais ces recours sur le fond?
Les recours sur le fond, vous savez, c'est des dates qu'on maîtrise peu. Hein, ça risque d'être un peu long. La demande qu'on vient de faire au préfet pour des informations complémentaires, c'est une trentaine de jours.
Oui.
Donc voilà les principaux échéanciers. Sur le plan éducatif, puisqu'il y a une autre préoccupation, on a regardé la rentrée de janvier. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a eu des mouvements de maîtres, les maîtres CLIS qui auraient été affectés donc, pour les migrants aujourd'hui, dans les classes spécialisées, mais qui créent déjà une première déstabilisation au niveau des enfants de Saint-Genis-les-Eulières, puisqu'il y a les enfants de réfugiés, de demandeurs d'asile, donc un public allophone, et puis des enfants avec un handicap. Donc là, on déstructure. Celui qui gérait ceci, on déstructure, on remettra peut-être des moyens. Mais ça aussi, c'est des faits déstructurants. Donc on va regarder cette rentrée scolaire et on regardera la prochaine rentrée scolaire.
Qu'on soit bien clair, l'objectif, si la justice vous donne raison au bout de quelques mois, voire quelques années, est-ce que c'est le démantèlement de ce village modulaire?
Vous savez, vu que quand on regarde l'échéancier, on pourrait dire qu'on se retrouvera certainement au moment où la décision de justice sera prononcée, à la fin pratiquement des 3 ans qui auront été. Et là, c'est aussi un point sur lequel on n'a aucune information. Même si on nous dit que le camp sera démantelé dans 3 ans,
oui.
C'est ce qu'on nous avait dit pour les demandeurs d'asile, qui sont dans des structures dures, donc qui ont coûté beaucoup moins cher, et puis où on peut dire que la population de Saint-Genis a tout à fait admis ce public-là, et ça se passe très très bien. Par rapport à ceci, si vous voulez, dans 3 ans, on nous dit que les personnes qui auront trouvé un emploi, parce que c'est quand même un des objectifs, partiront sur leur lieu d'emploi. On peut se poser la question, et ceux qui n'en auront pas trouvé? On va leur dire maintenant c'est fini, vous retournez à la case départ. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, nos recours en justice prendront toute leur importance au bon moment, on peut penser, puisqu'il y aura aussi le moment du démantèlement de ce camp.
Et puis Michel Dupoza, une dernière question. Quand on fait le tour sur votre page Facebook, on peut voir certains commentaires d'internautes et d'habitants excédés qui peuvent parfois lancer des appels minoritaires à agir comme en Corse, d'agir par la force. Ça fait aussi partie du travail de votre association, ça, de dire que ce n'est pas la solution à envisager.
C'est clair que l'association, depuis le départ, a voulu une démarche citoyenne. Et comme je dis aujourd'hui, depuis le début, on n'a aucun faux pas, aucune déviation. Et vous parlez de certaines personnes, effectivement, qui ont un petit ras-le-bol par rapport à tout ceci et qui ont surtout envie de se faire entendre. Ils trouvent auprès de nous déjà un moyen de se faire entendre. Ils acceptent par moments nos commentaires, de leur dire qu'on ne peut pas passer dans d'autres phases, qu'on entreprend, nous, des choses très factuelles et qu'on ne changera pas. Donc, ils sont très attentifs, puisque vous l'avez vu, hein, pour l'installation du camp. Avant, il y a eu une marche. Tout s'est toujours passé dans le profond respect de ce qu'on leur avait dit. Certains, on leur a dit, attention au débordement, ne vous laissez pas embarquer, restez dans les normes, sinon nous, on sera obligé de dire qu'on ne cautionne pas du tout votre démarche. Et là, ils ont joué très très citoyen, et personne adulte, il y a nos problèmes. Et je crois qu'aussi, le point qui est important, c'est que l'association leur permet probablement de trouver un moyen de s'exprimer, d'être entendu et de se dire que si demain il y avait quelque chose, il y a un lieu qui pourra se battre sur des faits factuels, voire des éléments, comme on l'a fait, en justice ou autre, et faire entendre leur voix. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut calmer.
Merci Michel Dupoza.
C'est moi qui vous remercie.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lionmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lionmag.com.